BFM Bourse, on refait la séance.
Clémence de Rothiakop nous accompagne ce soir. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue gérante pour Richelieu Gestion. Éric Lewin aussi est avec nous ce soir, le rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir Éric.
Bonsoir mon cher Guillaume, bonsoir à tous.
Ravi aussi de vous retrouver. Et puis Romain donc qui nous accompagne jusqu'à 18h. Clémence, un mot global sur la façon qu'ont les marchés de réagir aux publications. -0,9 ce soir le CAC. Alors il y a aussi une pression obligataire. Les taux obligataires, il ne faut pas les oublier. Au milieu des publications, les taux obligataires montent. Le 10 ans américain est à 4,7% ce soir. Mais est-ce que le marché vous semble désormais plus sévère, plus exigeant vis-à-vis des entreprises?
Oui, certainement. On voit qu'une publication en ligne ne suffit pas aujourd'hui. À la nervosité face aux publications, on peut rajouter aussi des craintes ravivées de stagflation. On a eu des statistiques américaines qui ont été un cocktail explosif. On a des surprises à la hausse de l'inflation face à des surprises plutôt en baisse de croissance du PIB. Donc, il n'en fallait pas beaucoup plus pour que les traders décalent à décembre la première baisse des taux de la Fed. Donc, ça a rendu assez nerveux les marchés des taux et puis par capillarité, évidemment, le marché action, ce qui fait aussi que les défensives surperforment aujourd'hui face aux cycliques qui sont largement allégées par le marché.
C'est vrai, voilà, la croissance américaine ressort inférieure aux attentes. On attendait à 2,2%, elle ressort à 1,6%, mais c'est aussi beaucoup lié aux effets de change. Le dollar qui monte, la balance commerciale américaine souffre un petit peu. En revanche, le consommateur, lui, est toujours là. Et l'inflation aussi, c'est ce qui ressort des composantes sous-jacentes du chiffre publié. Ce qui explique donc que malgré une croissance comme ça qui ralentit, le 10 ans américain, lui, progresse quand même à 4,7%. Donc ce soir, une explication aussi à la baisse du Nasdaq. Puis on a aussi Meta, c'est vrai, Meta qui souffre, -12%. À Paris, à tout seigneur, tout honneur, Eric, Sanofi ce soir signe la plus forte hausse du CAC, +4,5% après sa publication. Est-ce qu'on a le début peut-être là d'une nouvelle dynamique à venir pour Sanofi d'après vous?
Écoutez, alors, nouvelle dynamique peut-être pas, mais Sanofi, c'est quand même un titre qui perd 13% en un an, donc il fallait arrêter l'hémorragie. Non, ce dont on se rappelle, c'est qu'en octobre dernier, il y avait eu un gigantesque problème de confiance de la part de la société avec une révision et un abaissement des objectifs de marge pour 2025. Le titre avait été sévèrement puni. Là, finalement, ça se passe pas trop mal, même si la publication, il y a une baisse de 14% du revenu opérationnel, mais en raison notamment d'effets de change. Ce qu'on doit dire, c'est que le Dupixent, qui est toujours le blockbuster du groupe, ça représente 27% du chiffre d'affaires du groupe. Et quand on regarde, très honnêtement, Guillaume, la valorisation de Sanofi, moi je le dis toujours, c'est l'une des pharmaceutiques les moins chères au monde. Elle vaut 11 fois les bénéfices, il y a un rendement de 4%. Et ce qui sera intéressant de voir sur Sanofi, vous savez, ils voulaient coter le pôle santé grand public. On parlait de ça pour octobre, voire novembre de l'année prochaine. Maintenant, il y a des bruits qui courent, comme quoi il pourrait y avoir une cession. Donc moi, je pense que Sanofi, autour de 90-92 €, il y a encore du potentiel pour aller gagner au moins, d'ici la fin de l'année, une 15%. C'est un titre très en retard par rapport à l'ensemble du CAC 40, puisque je crois que depuis le début de l'année, le titre fait 1% et il perd quand même 13% en un an.
Oui, Sanofi ce soir termine en tête du CAC 40. On a cette question d'un auditeur, il s'appelle Ubald sur le réseau X. Est-ce qu'il se confirme, Clémence, c'est pour vous cette question, est-ce qu'il se confirme que l'avenir de Sanofi sera porteur de grands changements avec le plan stratégique qui avait été annoncé il y a quelques mois? Et puis ce soir, après la publication, les perspectives annoncées, cette hausse de quasiment 4,5%.
Alors, grand changement, c'est beaucoup dire, mais à notre sens, c'est une histoire intéressante, en effet, de retournement. On a un certain nombre de choses qui sont très prometteuses. Alors déjà, la valorisation, vous en parliez, on a une décote de 18% à peu près par rapport au comparable, qui n'est plus justifiée aujourd'hui, puisqu'on a quand même un certain nombre de produits qui sont très prometteurs dans le pipeline. On devrait avoir, il y a un certain nombre également de produits donc, qui sont en phase 3, donc qui sont bientôt mis sur le marché. Et puis, c'est le retour de la croissance à deux chiffres, des bénéfices par action dès 2025. Donc c'est vrai que c'est assez c'est tentant de commencer dès maintenant à se réintéresser à ce grand groupe pharmaceutique diversifié, effectivement, et puis avec potentiellement, vous en parliez, des arbitrages d'actifs au sein du portefeuille qui peuvent être intéressants, monétiser un peu de valeur cachée dans le groupe.
Autre valeur qui se distingue, un petit peu schizo ce titre, c'est ST Microelectronics. Ce matin, le titre perdait 4%. Ce soir, il termine en hausse de plus d'1% après la publication. Lequel des deux STMicroelectronics nous permettra de mieux prédire son avenir en bourse? C'est celui qui baissait ce matin, donc plutôt un avenir négatif, ou plutôt celui ce soir, finalement, qui au cours de l'après-midi a réussi à redresser la barre, Clémence?
C'est assez intéressant parce que ça montre vraiment le sentiment des investisseurs. On a une publication qui est bien inférieure aux attentes. Il coupe les prévisions de l'année et d'une ampleur qui n'était pas attendue par le marché. Et on voit en fait qu'il y a à la fois des rachats de ventes à découvert, certainement les hedge funds qui se couvre, puisque c'est un titre qui était quand même assez shorté. Et à côté de ça, un positionnement qui se les investisseurs qui se repositionnent sur un dossier qui, à moyen terme, a vraiment énormément de potentiel. Donc, on peut se dire que le point bas est atteint et que finalement, les attentes ont été remises à plat. Et maintenant, on se concentre sur les méga trends que va adresser le groupe avec des très, très solides expositions, électrification, digitalisation, etc. Donc, c'est une société finalement qui devient sur des niveaux. On est dans un creux et on peut comprendre ce genre de mouvement. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est assez technique aussi. On achète une mauvaise nouvelle, peut-être la dernière.
Et Eric, c'est le STMicroelectronics en baisse de ce matin qui est le plus prédictif de l'avenir du titre, ou plutôt celui qui a réussi à dresser la barre et a terminé en hausse d'1%?
Ben écoutez, je suis assez d'accord avec Clémence. Quand on regarde le titre, il perd quand même 11% depuis le début de l'année. Ce qui est à retenir quand même, c'est qu'au-delà de la révision d'espèces de sales warning sur 2024 et aussi bien en termes de rentabilité qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est qu'à Texas Instruments, qui a publié des bons résultats, je crois que c'était mardi soir, en disant qu'il y avait une reprise de la demande dans tout ce qui concerne l'automobile et l'industrie. Et quand vous regardez les prévisions mondiales dans les ventes de semi-conducteurs, on a fait une année 2023 à moins 8%, Guillaume, et on va sans doute faire une année 2024 à plus 13%. Évidemment, l'intelligence artificielle, mais pas que, notamment l'automobile et l'industrie. Donc moi, j'ai envie de dire que sur STM, là aussi, on a beaucoup baissé ce matin, on perdait 4 à 5%. Et puis, il y a eu des rachats à bon compte sur un titre quand même qui ne vaut que 10 fois ses bénéfices. Donc là aussi, je suis, même si la séance aujourd'hui est un peu volatile, je suis globalement positif pour STM en me disant que ça va repartir dans les semi-conducteurs et le groupe devrait faire une bonne année. En tout cas, la bonne chose, c'est qu'ils ont révisé à la baisse aussi bien le chiffre d'affaires et les résultats. Donc, si on avait une nouvelle un petit peu meilleure d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir un effet élastique sur un titre qui pourrait revenir vers 46-47 euros assez facilement.
STMicroelectronics, on vous rappelle la clôture ce soir, il est 17h48. Le CAC 40 a finalement reculé de 0,9%, mais a préservé les 8000 points, 8016 points en clôture. Eric, Dassault Systèmes, alors aussi, c'est vraiment l'avalanche de publications aujourd'hui. On est tous éclaboussés, là, c'est une pluie, on est tous arrosés. Bon, et ce soir, parmi les plus forts replis, donc Dassault Systèmes, moins 4. On a aussi Pernod Ricard que vous avez repéré à moins 2,5%. Laquelle des deux vous inspire le plus là pour guider nos auditeurs et téléspectateurs? Pernod Ricard ou plutôt la lanterne rouge du jour sur le CAC Dassault Systèmes?
Bah écoutez, je trouve que sur Dassault Systèmes quand même, en fait je voulais vous parler au début de Pernod, mais finalement j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Sur Dassault Systèmes, je trouve quand même que le marché est un peu difficile avec ce groupe, parce que le groupe a quand même réaffirmé ses objectifs 2024. Quand on voit le premier trimestre, on a un chiffre d'affaires plus 5%, 1,5 milliard. Le chiffre d'affaires et licence progresse de 7%. Bon, alors c'est vrai que dans la science de la vie, qui est un secteur très attendu parce que c'est le développement du groupe, on a un chiffre d'affaires en baisse de 2%. Mais moi, je trouve qu'on est quand même extrêmement sévère sur ce dossier. Alors pourquoi on est aussi sévère sur ce dossier? Eh ben parce que Dassault Systèmes traditionnellement se paye très très cher. On est sur des ratios de 35 à 37, donc c'est un petit peu cher. Mais là aussi, moi franchement, quand je regarde l'évolution du titre, moins 16% depuis le début d'année, moins 22% en 3 mois, autour des 36-37 euros, on n'est pas loin des plus bas depuis 6 mois. Moi j'ai envie de mettre aussi une petite pièce dessus. Alors je ne fais pas exprès d'être positif sur tous les titres, rassurez-vous, c'est pas comme ça, mais je trouve qu'on a été un petit peu trop loin quand même aujourd'hui sur Dassault Systèmes.
Dassault Systèmes, lanterne rouge, effectivement. On a parlé d'Hermès beaucoup dans le club tout à l'heure. Si vous avez raté le direct entre 17h et 17h30, vous pourrez trouver le replay également sur notre site BFM Bourse ou notre application BFM Business sur Hermès. On n'a pas d'IA, on n'a pas beaucoup d'IA sur le marché parisien. En revanche, on a de la désirabilité, c'est Hermès. Quelle publication magnifique. Pourtant, le titre a été sanctionné, moins 2,5. Donc, replay sur notre application, n'hésitez pas à le consulter. Clémence, demain, on aura d'autres publications. Total publie demain, et c'est
oui.
Ça on va terminer la semaine en chapeau de roue, là.
Oui, Total publie demain, même si on ne s'attend pas à énormément de surprises. Alors, on sait que de toute façon, la baisse des prix du gaz va impacter la plupart des pétrolières ce trimestre-là. La hausse du prix de pétrole, on la verra plutôt pour le T2. On ne devrait pas avoir de grandes surprises demain. De toute façon, Total, ce qui intéresse les investisseurs, c'est la transformation. Il y a un tiers des investissements aujourd'hui qui sont faits dans les énergies renouvelables. Donc, le groupe est en train de se de se réinventer dans cette partie-là, et puis un retour à l'actionnaire qui est assez exemplaire, avec un, à la fois un programme de rachat d'actions qui continue, et puis un rendement qui est très élevé, qui est largement couvert. C'est un des titres qui est très décoté si vous comparez aux comparables américains. Donc ça, c'est assez intéressant. On a une conversion, les flux de trésorerie sont largement couverts, enfin le dividende est largement couvert par les flux de trésorerie, donc pour nous c'est vraiment un incontournable dans le secteur.
Et alors, puisqu'on parle de Total, on va parler des matières premières au sens très 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 large, et pourquoi pas même des valeurs minières. On a une énorme consolidation à venir, manifestement, dans le cuivre, peut-être la naissance d'un nouveau leader mondial du cuivre, cette offre de BHP sur Anglo-American. On est au début d'une vague là, de fusion-acquisition dans cet univers des matières premières.
Mais peut-être qu'on sera au début d'une surenchère aussi. Il n'est pas acquis que BHP arrive à mettre la main sur Anglo-American. Rappelons les choses, Anglo-American, il y a à peu près 40% d'exposition au cuivre, et le cuivre, c'est vraiment ce qui intéresse aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une matière première qui va être en déficit dès le deuxième trimestre, une demande qui va être très forte, exposée à infrastructures vertes, data centers, etc.
L'IA, il faut du cuivre. Le cloud, il faut du cuivre. C'est parce que pour tout ça, il faut de l'électricité. Pour la conduire, il faut du cuivre.
Il y a très peu de capacité de production. Il y a plusieurs acteurs qui sont exposés au cuivre. Alors, il y a des pure players, comme Antofagasta, qui est un groupe minier chilien, familial, coté à Londres. Donc, pure player, mais avec très peu d'expansion des capacités. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Anglo-American, qui devrait multiplier par deux ses capacités de production de cuivre dans les années à venir. BHP fait une offre aujourd'hui 100% titre. Nous, on estime qu'il y aura peut-être un chevalier blanc qui va être cherché par le board d'Anglo. Il y a beaucoup d'autres groupes qui pourraient être intéressés. Les grands, Rio, Vale, etc. Pourquoi pas également des groupes chinois, des groupes indiens. On se souvient que Vedanta, à une époque, avait été très intéressé aussi par le dossier. Ou même d'autres acteurs. Alors Glencore a un bilan qui peut-être le permet un petit peu moins, un peu plus petit, à moins de capacité que BHP. En tout cas, à notre sens, l'histoire de cette acquisition ne va pas s'arrêter là.
Une valeur pour jouer le cuivre, enfin, c'est une thématique qui vient dont vous vous dites qu'elle a beaucoup de potentiel, justement parce que du cuivre, il en faut pour la transition énergétique, pour l'IA, pour le cloud, pour les véhicules électriques.
Il y a beaucoup d'acteurs qui sont exposés au cuivre. Il y a Lundin Mining, par exemple, First Quantum. Mais pourquoi pas, même malgré la hausse du titre aujourd'hui d'Anglo-American, pourquoi pas se positionner. Antofagasta, un pure player, mais moins de potentiel avec l'expansion, donc un peu moins de croissance.
Eric Lewin est toujours avec nous. Eric, challenge. Vous avez 40 secondes pour évoquer un autre titre intéressant qui a publié. On reste dans l'univers justement de l'électrique, et un groupe d'ailleurs qui pourrait bénéficier du déploiement de l'IA parce qu'il faut des équipements électriques pour tout ça, c'est Schneider Electric. La publication, elle n'a pas été complètement du goût des marchés. Comment est-ce que vous interprétez la réaction boursière ce soir?
Bon, écoutez, d'abord, Schneider, c'est un titre qui surperforme vraiment depuis quelques années. Ça fait plus de 77% en 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fini le petit groupe industriel. Maintenant, ils veulent être leader mondial de ce qu'on appelle l'industrial tech. Vous savez, c'est toutes les initiatives technologiques qui aident à digitaliser, à disrupter l'industrie. Ce qui est à retenir quand même, c'est que les ratios de valorisation, aussi bien financiers que boursiers, sont du niveau d'une tech, puisqu'ils devraient tirer cette année entre 18 et 18,2% de rentabilité avec un PE de 25. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent vraiment aller à fond dans notamment le domaine du logiciel. Vous savez qu'ils discutent en ce moment pour acheter Bentley Systems, spécialisé dans les logiciels de modélisation d'infrastructures. Le numérique représente maintenant 56% du chiffre d'affaires du groupe. On a complètement vrillé. On n'est plus du tout industriel, mais on est de plus en plus tech et numérique. Par contre, je pense que sur Schneider, l'heure est peut-être à quelques prises de bénéfices. On est quand même sur une valo de 122 milliards. On gagne 15% depuis le début de l'année. Je le disais, 173% en 5 ans, 53% en 3 ans.
Oui.
Ça vaut une petite consolidation quand même. Moi, je rachèterais plutôt en dessous de 200, alors que là, on vaut entre 210 et 212.
Merci, Eric. Eric Lewin, directeur des publications Agora. Merci beaucoup, Clémence. Clémence de Rothiacob, gérante pour Richelieu Gestion. Merci de nous avoir accompagnés. Je crois que c'était votre première dans BFM Bourse depuis de nombreuses... Première réussie. Et si vous voulez revenir, vous êtes complètement la bienvenue.
Avec plaisir.
N'hésitez pas. Et on remercie aussi, bien sûr, Romain Doury qui nous accompagnait depuis Bourse Direct.